Donc, nous allons entendre maintenant Florence Roche et Frédéric Sabi sur les questions d'identité professionnelle. Florence Roche et Frédéric Sabi sont les conseillers scientifiques de cette organisation donc intellectuelle. Ils nous ont aidés à monter le programme et on les remercie beaucoup. Voilà, à vous.
Merci. Merci Isabelle, en fait c'est à nous à vous remercier. C'est à nous à vous remercier d'avoir organisé cette journée d'études et comme Emmanuel Eziza l'a amicalement rappelé ce matin, l'idée d'origine que nous devons à Patrick Bazin, que je remercie devant vous ce matin, je ne l'ai pas vu, je crois qu'il viendra seulement tout à l'heure en fait, voilà. On le verra tout à l'heure. C'est à lui que revient l'idée d'origine à la suite de la, comme l'a donc rappelé Emmanuel Aziza ce matin, de la publication de ce bouquin auprès de l'ENSIB l'année dernière. Donc c'est à nous à vous remercier. Comme Isabelle vient de le dire, donc nous sommes sur un terrain qui est un peu particulier, à savoir les bibliothèques universitaires. Je crois qu'il y a dans la salle beaucoup de collègues qui viennent des bibliothèques publiques. Notre terrain d'action, c'est celui des bibliothèques universitaires. Je dirige la bibliothèque universitaire de lettres et sciences humaines à Grenoble. Florence Roche dirige le département du public dans cette bibliothèque. Et notre terrain d'expérimentation quotidien, c'est un terrain qui, de ce fait, est un peu particulier. Non pas qu'on ne puisse pas étendre ce que nous constatons tous les jours à l'ensemble des bibliothèques, et c'est d'ailleurs ce que nous allons essayer de faire, mais il faut d'abord prendre la précaution de le présenter comme ça.
Alors, nous allons faire une intervention à deux voix, donc vous l'aurez compris, Frédéric Sabi et moi, pour tenter d'esquisser avec vous quelques perspectives sur l'évolution du métier de bibliothécaire. On le fera donc en deux parties principalement. Une partie qui portera sur pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on pose cette question de l'avenir de manière aussi cruciale et d'une certaine manière aussi effrayante pour nous. Et on verra ensuite finalement comment, à partir d'une recréation, d'une légitimation du métier de bibliothécaire, on peut essayer de tirer des pistes pour l'avenir et pour un avenir qui soit confiant et optimiste. Alors, de l'avenir, il sera largement question tout au long de cette journée, c'est même le titre de la journée d'études. Ce titre-là a été choisi véritablement à dessein. D'abord pour nous bousculer un peu dans notre réflexion à chacun d'entre nous, aussi parce que finalement ça nous amène à un paradoxe. Nous qui sommes ici pratiquement tous bibliothécaires dans cette salle, nous pratiquons un métier qui est millénaire. Nous avons l'habitude de considérer le temps de l'histoire à l'échelle des siècles. Et là, aujourd'hui, nous en sommes à aborder la question de l'avenir, non pas sous la forme d'un horizon lointain, celui du patrimoine qu'on lègue aux générations futures par accumulation, par savante construction, mais on en est vraiment à aborder la question de l'avenir à court terme, c'est-à-dire celui qui arrive dans 5 ans, qui arrive dans 10 ans. Et c'est peut-être finalement très nouveau pour nous de se poser cette question sous cette forme-là et avec cette urgence-là. Et ce que je voudrais dans un premier temps regarder avec vous, c'est pourquoi on se pose aujourd'hui cette question et pourquoi on ne se la posait pas il y a encore 10 ans ou 20 ans. Et depuis quand justement se la pose-t-on ? Finalement, pouvoir dresser ces quelques jalons chronologiques va nous permettre de mieux comprendre les phénomènes qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Première étape, je remonte un peu dans le temps, donc rassurez-vous, je ne remonterai pas au Ptolémée, même si c'est tentant pour nous, on le sait bien. Je vais me contenter de remonter à il y a 20 ans, donc on se situe en gros en 1994. À cette époque, bien sûr, la question de l'avenir des bibliothèques ne se posait pas de manière ontologique, si j'ose dire, c'est-à-dire sous la forme d'une menace de son existence elle-même. Alors, bien sûr, on se l'a posé tout de même, mais plutôt sous la forme d'une adaptation, trouver une évolution, et notamment une adaptation aux nouvelles technologies de l'information. C'est l'époque où l'on commence à convertir les catalogues sur fiche. C'est l'époque aussi où on développe ce que vous avez tous connu sous le sigle de RDI, la recherche documentaire informatisée. Et toutes ces évolutions ne remettaient absolument pas en question l'avenir des bibliothèques qui paraissait clair, qui paraissait limpide et évident à tout le monde. Alors, à cette période, il faut noter, puisqu'on est en train de parler là de, vraiment d'un ensemble de bibliothèques qui soient à la fois bibliothèques de lecture publique et bibliothèques universitaires, hein, donc on va essayer tout au long de cette intervention de trouver des points communs entre ces deux univers. Il faut noter donc que l'évolution des bibliothèques universitaires et de lecture publique s'est faite sur des terrains relativement différents. À cette époque, donc je rappelle, 1994, les bibliothèques territoriales se sont beaucoup interrogées sur le développement de la lecture, la relation au public et l'investissement dans de nouveaux territoires de lecture. Elles ont mené en parallèle à cela des actions offensives. Donc rappelez-vous, hein, c'était l'époque de la lutte notamment contre l'illettrisme et plus largement la lutte contre les exclusions sociales de toutes sortes. Et elles ont, à cette même période, ce qui, les choses étant finalement très étroitement imbriquées les unes dans les autres, mené de vastes programmes de construction qui ont affecté toutes les tailles de collectivités, grandes et petites, et produit des exemples remarquables de nouveaux bâtiments dont l'existence même se justifiait par la qualité, la nature de cette relation au public. Et en revanche, elles se sont moins posées à cette époque la question des évolutions techniques. Parallèlement, au même moment, dans les bibliothèques universitaires, on est sur un mouvement finalement contraire. À cette époque, donc, on est à il y a 20-25 ans, on se situe avant l'explosion démographique universitaire qui a touché l'université après les années 95 en gros. Et on est dans une relation au public qui est facile. On reviendra sur ce point-là parce que c'est un point vraiment très important de la bascule qui a pu se faire et qui peut aussi expliquer pourquoi on en est là aujourd'hui à expliquer tenter d'expliquer pourquoi on se pose la question de l'avenir. Cette relation donc au public étant facile, finalement, on s'est concentré sur un autre aspect qui était celui du traitement des évolutions techniques. En gros, deux étapes majeures, je passe rapidement parce que ce sont des choses que vous connaissez tous. La révolution informatique d'abord et la révolution numérique ensuite, qui est arrivée très rapidement après. L'étape informatique a touché dans les années 80 la circulation des documents, ensuite les catalogues, puis la révolution numérique qui est arrivée dans la foulée, a profondément transformé, donc notamment à l'université, la relation à la documentation. Alors de manière bien sûr assez différente et plus ou moins rapide selon les disciplines, mais quand même toujours en profondeur. Deuxième étape, il y a 15 ans. Je fais un petit saut juste de 5 ans, mais c'est un saut qui est important. On est en 1998-1999. Développement de l'Internet, très marquant, et développement de l'informatique documentaire, qui amène certains décideurs, et là c'est vraiment une chose nouvelle qu'on observe, à se poser la question du lieu. Et là, je voudrais donc évoquer avec vous, vous faire part de la réaction d'un de nos décideurs. Alors, vous excuserez la grenobloise que je suis de donner des exemples grenoblois, mais ce sont des exemples très, très frappants. À cette époque, donc à Grenoble, à la bibliothèque universitaire Droit-Lettres, on était dans une réflexion sur un programme de reconstruction de la bibliothèque. Un programme ambitieux qui demandait des financements ambitieux également. Et le président de l'université de l'époque, qui s'appelait Guy Romier, au moment d'engager finalement ce programme et les financements qui avaient qui allait avec, a été pris véritablement d'un doute très profond, très violent, en se posant la question finalement de sa responsabilité dans l'engagement de ce financement. Il s'est demandé en clair si la bibliothèque universitaire en tant que lieu aurait encore un avenir 15 ans plus tard. À cause justement de cette révolution qui était en marche vers l'informatique documentaire. Donc vous voyez qu'on n'était quand même pas encore avant les années 2000. Déjà on voit poindre ce genre de réflexions très fortes, mais qui sont quand même finalement restées relativement isolées et marginales. Et donc à cette époque, donc de ces deux évolutions majeures dont je viens de parler dans les bibliothèques universitaires, on a concentré l'essentiel du temps de travail à des périodes de grands travaux, au développement de l'informatique documentaire, à des constructions nouvelles, à des opérations de réhabilitation. Ce sont les plans successifs Université 2000 et U3M. Et c'est finalement une période d'euphorie pour les bibliothèques universitaires, avec donc tous les projets de développement de libre accès, de développement de l'informatisation, le tout soutenu par des créations de postes relativement abondantes et par une sensible augmentation des budgets. Période donc où finalement la question de l'avenir commence à être un petit peu abordée, mais on est encore dans un horizon confiant. Troisième étape, il y a 10 ans, hein, donc je fais des sauts de 5 ans en 5 ans, comme vous voyez. Donc nous sommes en 2004, et là pour le coup, une évolution vraiment marquante avec le développement, l'intensification plutôt du développement des ressources numériques avec les ressources payantes accessibles en ligne. Donc je donne encore l'exemple grenoblois, pas parce que je suis dans un tropisme grenoblois exacerbé, mais parce que je pense que notre chronologie est en fait représentative de la chronologie de l'ensemble des bibliothèques universitaires en France à ce moment-là. Donc en 2000, à la BU, nous n'avions aucune ressource électronique en ligne. En 2001, c'est l'acquisition du premier bouquet de revues numériques. En 2004, nous étions déjà dans une augmentation quasi exponentielle de ces ressources. Du coup, le discours professionnel s'est structuré autrement et il est passé de la question des évolutions techniques à l'idée de médiation, le bibliothécaire facilitateur de l'accès à l'information. Et c'est aussi l'époque où apparaissent dans les organigrammes des bibliothèques universitaires, des services au public, des départements du public. C'est aussi à cette époque, en 2004, c'est l'arrivée de la réforme du LMD, que se structure véritablement une offre de formation des étudiants à la méthodologie documentaire dans les bibliothèques. Et ce dernier point-là est bien le signe d'une double évolution. Donc le constat d'une difficulté croissante pour les étudiants à se retrouver dans une abondance documentaire démesurée, à la fois dans les formes et en quantité, et une difficulté croissante aussi du public étudiant à se retrouver dans des codes académiques qu'il ne possède plus ou qu'il ne possède pas. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Et l'accès à la documentation, pourtant, est bien un de ces codes académiques qu'on demande aux étudiants de posséder. Alors, vous allez me dire, quand est-ce qu'elle s'est faite, cette bascule véritable ? Eh bien, elle arrive tout de suite après, et très rapidement, entre 2005 et 2010. En gros, donc vous voyez qu'on est vraiment dans une antériorité toute récente encore. Que se passe-t-il à cette période-là ? La part du budget qui est consacrée aux collections numériques prend clairement le pas sur les collections imprimées. La première conséquence, qui touche en premier lieu les BU scientifiques, c'est une désertion des chercheurs. Car ces chercheurs, vous savez que dans les disciplines scientifiques, on utilise beaucoup les articles et les revues. Ces chercheurs se sont finalement passés de la fréquentation de la bibliothèque à partir du moment où ils ont reçu dans leur bureau et sur leur lieu de travail, ça peut être aussi le domicile, la possibilité de pouvoir consulter à distance ces ressources. Et au même moment, d'une manière plus générale dans la société, l'équipement des citoyens en accès Internet a progressé de manière fulgurante, suivi par le développement de l'Internet mobile. Au même moment également, les ressources gratuites qui sont proposées sur le web augmentent en nombre et en qualité de manière indéniable, et les usages des publics potentiels se modifient. Alors finalement, cette bascule des usages et de l'offre d'information est véritablement à l'origine de cette rupture, qui intervient, donc vous le voyez, au terme d'une vingtaine d'années d'évolution technique. Et cette bascule véritable, elle a véritablement à voir avec les accès nomades et mobiles à l'information, dont celle produite pour les bibliothèques. Je l'ai dit tout à l'heure, donc dans un processus qui est allé de 2001 à 2007 à Grenoble, nous avons mis en place progressivement les accès à distance à la documentation numérique. Cette chronologie a été la même dans toutes les bibliothèques universitaires. Et force est de constater maintenant que cet événement, même s'il n'a pas été ponctuel, puisque vous voyez, on est quand même dans une évolution, a été d'une importance majeure, parce qu'il a introduit une rupture entre la collection de la bibliothèque et le bâtiment qui abrite ces collections. Et cette rupture, elle est profonde. Évidemment, l'étymologie du mot bibliothèque est là pour nous le rappeler. La bibliothèque, c'est d'abord le coffre où l'on range les livres. Et avec cette rupture, c'est bien la notion de coffre, d'enveloppe charnelle, qui va voler en éclats. Ses conséquences sont bien plus grandes et bien plus profondes que tous les autres points d'évolution que les bibliothèques ont connus depuis 50 ans. Alors, vous rappelez tout le débat qui a animé la profession sur l'introduction des nouveaux supports dans les bibliothèques, notamment dans les bibliothèques de lecture publique. Eh bien, ces nouveaux supports n'ont jamais introduit de rupture aussi radicale que celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui, pour deux raisons. D'abord parce qu'il est abusif de leur donner une importance trop grande. Leur principale caractéristique à ces nouveaux supports, c'est d'être autre chose que des livres. Or, les bibliothèques ont toujours eu dans leur collection autre chose que des livres. On n'est pas dans une révolution majeure avec ce point-là. Mais surtout parce que ces nouveaux supports n'ont jamais remis en question l'enveloppe charnelle, ce fameux téqué, qui constitue le lieu même où, pendant des siècles, s'est nouée la relation à la bibliothèque. Donc, vous voyez à quel point la rupture de la fin des années 2000 est d'une toute autre radicalité. Car en donnant accès à distance à ces collections, dont on continue de dire quelles sont les collections de la bibliothèque, on introduit une rupture majeure dans cette relation et on apporte la preuve active que l'enveloppe charnelle, le téqué d'origine, n'est plus forcément indispensable. Et c'est sans doute là la vraie rupture qui nous amène aujourd'hui à poser la question de l'avenir de nos institutions. Je voudrais revenir sur quelques points, notamment liés aux usages de nos citoyens, qui sont tirés d'enquêtes récentes de l'INSEE et du CREDOC, des enquêtes de 2012-2013. Des enquêtes qui ont montré que le taux d'équipement des foyers en accès à Internet est passé de 56% en 2008 à 64% en 2010 et 78% en 2012. Donc vous voyez une augmentation de 22 points en seulement 4 ans. Le taux d'accès à l'Internet mobile est passé de 20% en 2008 à 38% en 2010 et 40% en 2012. Là, ce sont des chiffres INSEE que je donne. Donc, en 4 ans, là encore, un doublement de la proportion d'accès à l'Internet mobile. Par ailleurs, 80% des internautes aujourd'hui utilisent Internet tous les jours et 30% utilisent Internet au moins une fois dans l'année, je cite la même enquête INSEE, pour acheter des livres, des magazines, des journaux ou du matériel éducatif, toutes choses que nous offrons dans nos bibliothèques. Donc vous voyez qu'au-delà de ces chiffres, ce qu'il faut retenir ici surtout, c'est la rapidité de ce phénomène et l'ampleur de cette vague qu'on peut qualifier, sans exagérer je crois, de vague déferlante. Alors, essayons maintenant de résumer les différents points d'articulation du phénomène qui est à l'œuvre aujourd'hui. On vient de le voir, l'usage à l'information s'est diversifié et s'est facilité. Les usages sont en pleine mutation. Et là, on peut vraiment faire des passerelles tout à fait faciles entre les différents types de bibliothèques dans lesquelles nous sommes appelés à travailler. On constate dans toutes les catégories de bibliothèques, qu'elles soient universitaires ou territoriales, une baisse des prêts et une baisse des inscrits. Et en parallèle, parce qu'il faut quand même rester optimiste, bien sûr, une augmentation de la fréquentation, également dans toutes ces structures. Et c'est bien là le signe tangible que les points de repère traditionnels, notamment ceux construits autour de l'usage des collections et du pourquoi je viens à la bibliothèque, sont véritablement bousculés. Donc, on le voit bien, la relation à la bibliothèque et à sa collection se modifie, à l'image de l'évolution du lien qu'entretient la société tout entière avec la question de l'imprimé. On pourrait tirer dans notre quotidien de multiples exemples de cette évolution de la relation à l'imprimé. C'est le collégien, nos enfants ou nos neveux qui vont construire leurs exposés à travers ce qu'ils vont trouver sur Internet, plutôt que d'aller au CDI du collège. Monsieur Intel qui reçoit sur son téléphone portable les nouvelles de Google plutôt que d'aller à la bibliothèque de quartier pour aller consulter le quotidien du jour. Et même l'étudiant de licence, je n'ose dire de master, j'ai un professeur d'université devant moi qui pourrait en témoigner, qui préfère trouver la synthèse toute faite, rapide et facile sur Wikipédia à la consultation des sources. Alors, puisqu'on parle du public étudiant, je voudrais vraiment revenir sur ce point-là, qui est un point extrêmement important. Le public étudiant aujourd'hui, qui fréquente les universités, je vais citer là un professeur d'université qui a été interviewé dans Le Monde en janvier 2012, ce public aujourd'hui ne dispose que de peu de points de repère quant aux exigences scolaires. Dans une institution continuant à fonctionner pour des étudiants familiarisés avec les codes implicites de la culture légitime. Autrement dit, un hiatus qui est avéré maintenant entre les pratiques des étudiants et ce que l'université attend d'eux. Et malheureusement, les taux d'échec très importants que nous connaissons à l'université aujourd'hui en premier cycle, qui sont de l'ordre de pratiquement 60%, sont là pour illustrer ce hiatus. Donc, pour résumer tout ce que je viens de dire, la bibliothèque est l'objet de concurrences multiples, au travers de deux de ses missions fondamentales, d'une part l'accès au savoir, d'autre part la démocratisation de cet accès. Et aujourd'hui, donc même dans les bibliothèques universitaires qui ont longtemps considéré leur public comme un public facile, je l'ai dit, il y a 20 ans, on était dans une relation publique qui était facile. Eh bien, aujourd'hui, la fréquentation de la bibliothèque par ses étudiants, contrairement à ce que l'on pourrait encore croire dans l'opinion publique, n'est plus une évidence. En tout cas, elle ne l'est plus pour les usages qui sont fondés sur les collections. Pour le reste, c'est un peu différent. Alors, il en découle de tout ça, bien sûr, des interrogations pour les tutelles. C'est complètement compréhensible. Les universités, les collectivités territoriales, qui légitimement, parce qu'elles sont gestionnaires de l'argent public, s'interrogent sur l'évolution de nos établissements. Ces tutelles doivent-elles être les seules à se poser la question ? Et surtout, que se passerait-il si nous, bibliothécaires, nous ne nous posions pas cette question ? Alors, il est évident, et nous tous, nous l'avons vécu, je crois, chacun d'entre nous, cette question, elle dérange, cette question de l'avenir. La rapidité du phénomène dont je viens de parler, vous voyez, ça remonte finalement à moins de 10 ans, tout ce qu'on vient d'évoquer, donc le phénomène des accès distants notamment, a surpris et désemparé les bibliothécaires eux-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été vraiment bousculés dans la représentation de leur métier. Et certains ont pu se réfugier derrière deux tentations. D'une part, le discours de la déploration par rapport à ce qui peut être considéré comme une évolution négative de la société, cette fameuse défaite de la pensée dont Alain Finkielkraut, dans les années 80, avait déjà largement parlé. Et d'autre part, une volonté de ne rien changer, ou en tout cas de ne pas voir ce qui était en train de se passer, parce que ne rien changer, c'est aussi exprimer l'attachement à son cœur de métier. Alors, et vous êtes tous là aujourd'hui pour en témoigner, puisque votre présence montre que vous vous posez cette question, il faut que les bibliothécaires se posent cette question, et se la posent en premier, avant que d'autres ne la posent à leur place. Pourquoi ? Parce que ne pas s'adapter, ce serait vraiment courir deux risques majeurs. Le premier, celui d'une rupture avec le public, conduisant à une perte de ce public. Et il faut noter d'ailleurs qu'un des effets pervers, finalement, de l'accès distant aux collections numériques, notamment dans les bibliothèques universitaires, qui a été voulu par les bibliothécaires et voulu vraiment comme un service, a entraîné finalement une rupture avec une catégorie de notre public, celui des chercheurs. Je parle surtout des chercheurs dans le domaine des sciences dures. Parce qu'ils en sont venus, en recevant ces ressources chez eux, sur place, à oublier que les ressources numériques qu'ils consultent étaient acquises par les bibliothèques. Et je peux vous assurer que ça, nous le vivons vraiment tous les jours, dans l'échange que nous avons avec les enseignants-chercheurs. Peu d'entre eux savent que les ressources numériques qui sont mises à leur disposition sont acquises par la bibliothèque universitaire. C'est le phénomène que Daniel Renoux a qualifié de « désintermédiation ». Et c'est aussi finalement une preuve que le lien entre collection et bibliothèque, vous le voyez dans l'esprit de nos usagers, n'est plus aussi effectif. Deuxième risque majeur d'un refus d'une adaptation de notre part, c'est de courir le risque de perdre en légitimité. Or, cette légitimité, elle est vraiment le garant de notre avenir. Et je vais laisser Frédéric Saby développer cette question cruciale.
Donc, deuxième point dans notre propos, la question, quelles conséquences pour la légitimité du bibliothécaire ? Sur quoi est fondée cette légitimité et quel peut être son avenir ? Les deux premières interventions de la matinée ont donné déjà un certain nombre de pistes pour réfléchir à cette question de la légitimité. On va reprendre tout ça. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier... On reste dans une perspective un peu historique, là, mais qui est importante. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la légitimité première des bibliothécaires, qui est une légitimité séculaire, alors elle ne remonte pas, je ne suis pas sûr qu'elle soit millénaire, hein, mais elle est au minimum séculaire. C'est une légitimité qui est fondée sur la question du choix. La question du choix dans la constitution des collections. Elle est là, la légitimité d'origine. C'est une légitimité séculaire, puisque le premier à avoir très très clairement évoqué cette question, vous le savez, c'est Didier Erasme, donc, le grand humaniste, ami des imprimeurs, notamment de Froben, et qui a beaucoup réfléchi à cette question-là, et vous trouverez des propos d'une grande limpidité pour nous dans les colloques, dans lequel il dit que il faut aller à la bibliothèque, je le cite, vous le traduis de mémoire, il faut aller à la bibliothèque, non pas la bibliothèque dans laquelle il y a beaucoup de livres, mais la bibliothèque dans laquelle les livres sont choisis. Non, tout est là. Tout est là. Notre légitimité d'origine, c'est le choix dans la constitution des collections. Et je vais citer ce qu'écrivait Michel Melot à ce sujet-là. Plaisir pour moi de citer Michel Melot dans ses murs, citer ce qu'écrivait Michel Melot en 2004. La tâche ordinaire du bibliothécaire n'est pas d'accumuler les livres, mais de les choisir et d'assumer ce choix. Et aujourd'hui, cet édifice, il est remis en question. Il est remis en question, cette question du choix, elle est battue en brèche, et il en découle le malaise autour de cette légitimité du bibliothécaire. Je vais vous donner l'exemple des bibliothèques universitaires. Dans les bibliothèques universitaires, la question du choix dans la question des collections, dans la constitution, dans les acquisitions de documents, a été le fondement de l'activité pendant des décennies. Pas pendant des siècles, parce que, comme vous le savez, l'histoire des bibliothèques universitaires françaises est une histoire chaotique. Donc, pendant des décennies. Et aujourd'hui, cette question du choix dans la constitution des collections dans les bibliothèques universitaires n'est plus du tout considérée comme une activité scientifique. Plus du tout. Ça fait toujours un peu sourire nos collègues des bibliothèques publiques quand on parle de cette question, parce qu'il y a une antériorité de cette évolution dans les bibliothèques publiques par rapport aux bibliothèques universitaires. La bascule dans les bibliothèques publiques, elle est bien antérieure. Mais dans les bibliothèques universitaires, c'est une bascule qui est récente. C'est pour ça qu'on en a encore non seulement l'expérience, mais même la mémoire. Et aujourd'hui, qui est-ce qui a la légitimité de l'exercice du choix dans les bibliothèques universitaires? Ce sont les enseignants-chercheurs. Pas les bibliothécaires. Pas les bibliothécaires. Est-ce que cette affaire est si récente que ça? Si on voulait être rigoureux sur le plan historique, il faudrait dire que non. Quand on a refondé les bibliothèques universitaires françaises à la fin le dernier quart du 19e siècle, la décennie 1870, on a clairement organisé les choses. On se méfiait des bibliothécaires et on a dit ceux qui doivent avoir l'essentiel de la responsabilité sur les acquisitions, sur le choix, ce sont les profs. Trois quarts. Et le dernier quart, on le laisse aux bibliothécaires. Mais aujourd'hui, ce dernier quart même n'existe plus. Il n'existe plus. Et c'est un phénomène qui est amplifié par le développement colossal des collections numériques. Pourquoi ? Pour une raison simple, c'est que dans les collections numériques, on ne choisit rien. On ne choisit rien. On achète des droits d'accès à des éditeurs qui fournissent, contre le paiement de ce droit d'accès, l'ouverture à ce qu'ils veulent, eux. On ne choisit rien, en tout cas dans les bibliothèques universitaires. Dans les bibliothèques publiques, ça peut être éventuellement un peu différent. Mais on ne choisit rien. On prend ce que les éditeurs donnent en grande masse. Alors, il y a quand même un point qu'il faut aussi relever dans l'évolution récente sur cette question de l'équilibre entre le rôle des enseignants-chercheurs et celui des bibliothécaires dans cette constitution des collections à l'université. C'est que, en fait, et c'est une des bizarreries de l'histoire toute récente, c'est qu'il y a quand même une convergence qui est en train de s'établir entre ces deux parties. Elle était un peu inattendue, cette convergence, et elle est en grande partie liée, on pourra y revenir dans le débat si vous le souhaitez, elle est en grande partie liée aux évolutions récentes, aux grandes réformes que connaît l'université française depuis une petite dizaine d'années. Ces réformes et ces évolutions contraignent les enseignants-chercheurs et les bibliothécaires à travailler ensemble sur un certain nombre de points. Mais il n'en reste pas moins que, retenez ce que j'ai dit il y a un instant, c'est l'enseignant-chercheur qui détient la légitimité du choix, la légitimité scientifique, ça n'est plus le bibliothécaire. La collection, cœur de la bibliothèque, on est en train de le dire depuis quelques instants, est en pleine révolution. On se trouve donc en face d'une contradiction. À résoudre cette contradiction, c'est la suivante. D'un côté, une appropriation différente de la collection, c'est tous les exemples qu'on vient de donner depuis tout à l'heure. Et de l'autre, malgré tout, la conviction que ce qu'on peut appeler les fonctions traditionnelles liées aux collections, que ces fonctions traditionnelles persistent, éventuellement sous d'autres formes que celles qu'on a connues. Mais ce qui est important, ce n'est pas les formes qui évoluent, c'est que ces fonctions-là, elles persistent. Elle est là, la contradiction. Elle est là. On peut l'exprimer autrement. Il y a d'un côté l'inquiétude liée à la disparition du modèle séculaire que constituait la collection, et de l'autre, un regard rassurant qui est porté sur l'avenir des fonctions des bibliothécaires. Finalement, pour reprendre l'image qu'on utilisait tout à l'heure, le téqué qui fonde notre activité, là, pour le coup, depuis Ptolémée, il vole en éclats, on l'a dit, mais les fonctions qui sont associées, ces fonctions-là, elles demeurent. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'elles ne sont pas forcément associées à la bibliothèque comme lieu. Et là aussi, il y a des évolutions majeures qui sont en train de se produire. N'oublions pas que la notion de lieu dans le métier que nous faisons est une notion qui est fondamentale. Alors, elles ne sont pas forcément associées à la bibliothèque comme lieu. Je vais vous donner un exemple que nous pratiquons tous. C'est ce qu'on a longtemps considéré comme un pilier, la fameuse affaire du catalogage. Le catalogage, aujourd'hui, il est mutualisé, voire externalisé. L'externalisation dans les bibliothèques universitaires, ça ne se pratique pas encore trop. En tout cas, il se détache du lieu. Alors, il découle de tout ce qu'on vient de dire, et on verra ensuite quelles en sont les conséquences sur l'identité professionnelle. Il en découle, d'une part, quelques paradoxes, mais d'autre part aussi, quelques certitudes. Alors, commençons par les paradoxes. Premier paradoxe, j'en ai deux à vous proposer. Premier paradoxe, on dit que la collection n'est plus centrale dans notre activité. Très bien. Mais on dit aussi que sans la collection, il n'y a plus de bibliothèque. Et je pense que là, il y aurait un débat à avoir sur la question justement qui a été posée au tout début de la matinée, de savoir si le web, c'est vraiment une collection. En tout cas, une collection telle que nous l'entendons. C'est un débat intéressant, ça. Donc, la collection n'est plus centrale, mais sans collection, il n'y a plus de bibliothèque. Deuxième paradoxe. On dit qu'on a perdu la légitimité sur le choix des collections, ce que je vous ai cessé de dire depuis quelques minutes. En même temps, on dit que les ressources numériques proposées par les bibliothèques sont une alternative de choix, à l'Internet libre. Et toutes les bibliothèques vous tiendront ce discours. Toutes. Et donc, les bibliothécaires continuent, en fait, à revendiquer cette légitimité, cette identité fondée sur le choix. Est-ce qu'ils ont raison ou pas ? C'est un débat qu'il faut que nous ayons. Donc, ça, ce sont les paradoxes. Les certitudes. On va prendre des exemples très très parlant. Premier point, on l'a dit tout à l'heure, les bibliothèques continuent à attirer du public. Tout est disponible sur le web, les collections, c'est le web, les accès sont distants, et pourtant, toutes les bibliothèques, toutes, que ce soit les bibliothèques universitaires ou que ce soit les bibliothèques publiques, continuent à attirer du public. Non seulement elles continuent à en attirer, mais elles en attirent de plus en plus. De plus en plus. Deuxième certitude qui découle de la première, le lieu de bibliothèque répond à une attente. Troisième certitude, cette attente n'est plus centrée uniquement sur l'usage des collections. Alors, qu'est-ce qui en découle maintenant sur l'identité professionnelle ? On va essayer de le regarder, nous sommes entre nous, de le regarder catégorie par catégorie. Alors, je prendrai pas mal d'exemples dans le monde universitaire, mais il sera facile, y compris dans la discussion que nous aurons après, d'extrapoler aux bibliothèques publiques, aux bibliothèques territoriales. Commençons par l'avenir des conservateurs et des bibliothécaires. On va rester très statutaire là. Hein. C'est pas mauvais de temps en temps de revenir à ces réalités statutaires. Après tout, c'est ce que nous vivons tous les jours. Donc l'avenir des conservateurs et des bibliothécaires. Donc sûrement pas dans les acquisitions. Là encore une fois, je vous le dis, ça fait sourire nos collègues des bibliothèques de lecture publique, parce qu'il y a bien longtemps que les conservateurs en bibliothèque de lecture publique ne font plus d'acquisitions. Mais n'oubliez pas qu'à l'université, il y a encore peu d'années, c'était le cas, hein, les acquisitions, c'était l'apanage des conservateurs. Il y a peu d'années, hein, je ne parle pas du 19e siècle là, hein, je parle de peu d'années. Est-ce qu'il y a un avenir dans ce domaine ? Sûrement pas. Alors, les questions d'avenir, vous les avez abordées de nombreuses fois ces dernières années, le management, la gestion de projet, la gestion d'équipe, etc. Ne revenons pas là-dessus. Qu'est-ce qui distingue le conservateur ou le bibliothécaire d'un administrateur ? La tentation, elle existe aussi hein, pour les tutelles, de dire passons-nous d'un conservateur, on va prendre quelqu'un qui sait vraiment faire de la gestion d'équipe. La différence fondamentale, c'est certainement la connaissance des publics. La connaissance des publics. Je vais citer à nouveau Michel Melot, toujours dans le même... Je ne vous ai pas dit d'où j'avais extrait les citations de Michel Melot. En fait, c'est dans cet admirable petit bouquin qu'il a publié en 2004 qui s'intitule « La sagesse du bibliothécaire ». Vous aurez reconnu par vous-même. Donc, Melot disait en 2004, je cite, « La connaissance des lecteurs n'est pas moins nécessaire que celle des livres. C'est dans la correspondance de ces deux savoirs que repose le métier de bibliothécaire. » C'est essentiel. C'est essentiel. Et c'est là que se situe le véritable avenir. Pour ce qui est de la catégorie intermédiaire de nos professions, là, se situe dans la catégorie B. Alors sûrement pas sur le plan technique. Hein, on a vu tout à l'heure que ces fonctions techniques avaient vocation à quitter le lieu de la bibliothèque. L'avenir dans la fonction de médiation. C'est une évidence que vous connaissez aussi bien et même mieux que moi. Parlons maintenant, et c'est intéressant, de l'avenir des personnels de catégorie C, ceux que nous appelons dans les bibliothèques universitaires les magasiniers et qu'on appelle dans les bibliothèques de lecture publique les agents du patrimoine. C'est un cas de figure très intéressant, les catégories C, parce que, notamment à l'université, la question de l'avenir... pour eux, est posée de manière cruelle. De manière cruelle, parce que pour un président d'université aujourd'hui, dont je vous rappelle que depuis 2007, plus exactement depuis les années qui ont suivi 2007, il a un contrôle total sur la masse salariale, comme un maire dans une collectivité, dans une commune ou un président de conseil général dans un département, un président d'université aujourd'hui se pose... heureusement, malheureusement, je ne sais pas, des questions qui ne lui venaient même pas à l'esprit il y a 7 ou 8 ans. Et cette question que se pose un président d'université, et il se la pose notamment à l'égard des magasiniers, vous allez voir pourquoi, c'est premièrement combien ça coûte, et deuxièmement, est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer par quelqu'un d'autre ? Et à l'université, là, c'est un cas particulier par rapport aux collectivités territoriales. À l'université, il y a un quelqu'un d'autre qui peut remplacer le magasinier dans la tête d'un président d'université. C'est un étudiant à qui on fait signer un contrat de travail avec la bibliothèque. C'est prévu explicitement dans la loi LRU de 2007. Notez d'ailleurs au passage que c'est le seul point de la loi LRU où on parle des bibliothèques. Les étudiants qui peuvent travailler dans la bibliothèque. C'est le seul article de la loi où le mot bibliothèque est prononcé. Donc pour un président d'université, il y a quelqu'un qui peut remplacer le magasinier, c'est l'étudiant. L'étudiant qu'on embauche, à qui on fait signer un contrat, et en lui disant « tu vas aller travailler à la bibliothèque ». Pourquoi c'est intéressant pour le président d'université ? Pour une raison de coût, d'abord, mais pas seulement. Pour une raison politique. C'est que pour un président d'université, aujourd'hui, il est extrêmement payant de dire dans son discours politique « Je suis soucieux de l'avenir de mes étudiants et je suis tellement soucieux d'eux que je les fais embaucher par la bibliothèque. » Voilà le discours politique que tient aujourd'hui un président d'université. Et il le tient au détriment d'une catégorie de bibliothécaires qui sont là depuis l'origine des temps, c'est-à-dire les magasiniers. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On dit « très bien, c'est cuit, aucun avenir, les magasiniers passent à la trappe et puis on verra ce qu'on peut faire ». Ou bien, est-ce qu'on réagit autrement ? Non, on réagit autrement en prenant en compte l'ensemble des évolutions dont on parle depuis tout à l'heure. Et en disant, les magasiniers doivent eux aussi évoluer dans leur pratique du métier et intégrer, comme les autres catégories, toutes ces évolutions. Et la première, il y a deux exemples dans lesquels on peut leur trouver un vrai avenir. Des tâches techniques précises, il y en a plein aujourd'hui dans les bibliothèques, notamment universitaires, et là on ne peut pas les confier à des étudiants. Exemple, beaucoup de bibliothèques aujourd'hui sont lancées dans la constitution de bibliothèques numériques. Être lancé dans la constitution de bibliothèques numériques, ça implique toute une chaîne de traitement technique. Et il y a une part de ce traitement technique qui peut être moyennant formation, qui peut être confiée à des magasiniers. Et puis évidemment aussi, alors ça c'est peut-être un peu plus compliqué à mettre en place, mais il faut le voir aussi, c'est l'implication des magasiniers dans la médiation. Là aussi, ça fait un peu sourire nos collègues des bibliothèques de lecture publique, ça, parce que les personnels de catégorie C impliqués dans la médiation, j'ai été conservateur en bibliothèque municipale il y a 20 ans, on savait faire. Dans le monde des bibliothèques universitaires, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Donc cette étape-là, c'est maintenant qu'il faut la franchir. C'est maintenant. Pour conclure maintenant, et pour revenir au point central de cette journée de colloque, la place de la collection. Donc il y a un autre modèle à trouver. Comme on l'a dit depuis le début de notre communication, les 10 dernières années ont mis à mal le lien facile qu'il y avait entre les collections et leur public. C'est une question qui est essentielle, à laquelle il faut apporter une réponse, parce que l'existence de la collection, là aussi on l'a dit, est liée à l'identité de la bibliothèque. Ça ne sert à rien de le nier. Ça ne sert à rien. L'identité de la bibliothèque et la place de la collection sont deux notions qui sont fondamentalement liées. Deuxième point de réflexion, l'avenir des bibliothécaires se situe dans la médiation. C'est plus que jamais vrai. La collection ne vaut que parce que c'est l'usager qui en est le cœur. La rupture de ces 10 dernières années a mis en avant le rôle de l'usager autant que celui du bibliothécaire dans la question du choix. On a eu aussi des éléments dans les deux premières interventions de la matinée à ce sujet-là. En fait, d'une certaine manière, on a rééquilibré depuis ces 10 dernières années cette balance que nous regardons toujours entre l'offre et la demande. Les bibliothécaires ont peur que ce soit grave, qu'on soit en train de toucher à l'équilibre de cette balance. On a peur que ce soit grave. Mais nous n'avons pas à avoir peur parce que l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est de continuer à faire en sorte que la bibliothèque réunisse encore les conditions d'émergence du savoir. C'est ça le véritable enjeu. Ce n'est pas l'équilibre de la balance. Le bibliothécaire, en fait, alors là, pour le coup, c'est une réalité non seulement séculaire, mais même millénaire. Le bibliothécaire n'a jamais fait autre chose que de créer pour ses lecteurs des horizons d'attente. Et c'est un atout majeur de la bibliothèque, ça. C'est un atout majeur. La bibliothèque est le lieu de synthèse. Et de ce fait, elle est la seule à réunir toutes les conditions d'émergence du savoir. Il y a donc une identité professionnelle à recréer au-delà de l'idée que la collection physique est le cœur de la bibliothèque. Les fonctions bibliothéconomiques, on en a parlé, elles perdurent, et avec elles, les attentes du public. Ça aussi, on l'a dit. C'est autour de ces attentes du public qu'il y a une identité du lieu à recréer au-delà de la présence physique de la collection. Merci.
Alors, qui engage la discussion ? Voilà.
Merci. Bonjour. Je précise que je ne suis pas bibliothécaire, mais que je travaille beaucoup avec des gens qui travaillent en bibliothèque et aussi dans l'enseignement. Et donc, je voulais savoir, vous avez évoqué le fait qu'il y avait une contrainte en fait, de rapprochement des enseignants-chercheurs et des bibliothécaires, notamment dans les BU, mais on pourrait faire un peu un parallèle pour les bibliothèques de lecture publique avec d'autres types d'acteurs. Et je me demandais quelle était la place pour l'avenir justement de ce dialogue ou de ce rapprochement pour créer des horizons d'attente entre des personnes ou des acteurs qui ont des... qui disposent de sources différentes mais légitimes pour reconstituer cet accès à la connaissance positive. Et aussi, dans ce panorama-là, quelle est la, est-ce qu'il y a une place singulière aux enseignants documentalistes dans les collèges qui, du coup, à vous écouter, me semblent être des personnes professionnelles qui concilient les deux choses ou pas ? C'est une question. Merci.
Je vais juste introduire la réponse. On va essayer de la faire à deux voix parce qu'il y a des éléments qui sont appuisés dans nos deux expériences. D'abord, un élément d'explication un peu plus précis que ce que j'ai dit tout à l'heure sur les raisons du rapprochement, et qui est un rapprochement que je qualifierais de récent. Ce sont des raisons qui ne sont pas forcément de très bonnes raisons ni des raisons très glorieuses. Mais c'est important de les souligner. Une raison fondamentale, c'est bien une affaire liée, c'est une conséquence directe des réformes récentes de l'université, c'est une affaire de budget. C'est une conséquence directe, mais pas seulement. Pas seulement. On l'a dit tout à l'heure, nous avons connu dans les bibliothèques universitaires une période d'euphorie, qui se situe en gros des conséquences de la publication du rapport Mikkel à la fin des années 1980 jusqu'au début des années 2000. Période d'euphorie qui se caractérise pour nous, c'est assez inédit dans l'histoire des bibliothèques universitaires françaises, pour dire les choses simplement, par l'abondance des moyens. Cette période d'euphorie s'est malheureusement terminée au début des années 2000. Et aujourd'hui, toutes les bibliothèques universitaires françaises sont confrontées à une difficulté majeure qui est celle des moyens budgétaires. Pas seulement des moyens humains également, mais les moyens humains ont cette caractéristique par rapport aux moyens budgétaires, c'est qu'ils ont un temps d'amortissement qui est un peu plus long. Donc les effets, on les ressent pas encore vraiment. Les moyens budgétaires, en revanche, c'est d'une année sur l'autre. Ces difficultés budgétaires s'ajoutent À ces difficultés budgétaires s'ajoute une autre particularité, qui est que les réformes récentes du monde de l'université, loi LRU et mise en œuvre de la loi LRU, vous savez, la loi ESR de juillet dernier n'a strictement rien changé à la question. La loi ESR de juillet dernier, c'est la continuation de la loi LRU de 2007. A changé fondamentalement les choses en mettant, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre les mains du président de l'université un pouvoir d'action budgétaire qu'il n'avait pas auparavant. Auparavant, un président d'université gérait les moyens que lui donnait le ministère, point final. Et les bibliothèques universitaires géraient les moyens qui lui étaient directement attribués par le ministère. Le président de l'université n'en voyait pas la couleur, et il n'avait aucun moyen d'action là-dessus. Aujourd'hui, il y a ce double mouvement. Des moyens concentrés entre le président d'université, conséquence, le bibliothécaire de l'université, avec son équipe, doit défendre auprès du président d'université les raisons de la légitimité, les raisons d'existence de la bibliothèque, pour avoir du budget. Question qui ne se posait jamais auparavant, ne l'oublions pas. Jamais. Ça aussi, ça fait sourire nos collègues des bibliothèques territoriales. C'est ce que fait une bibliothèque municipale depuis toujours, défendre son budget devant le conseil municipal. C'est ce que fait une BDP depuis, pas depuis toujours, en tout cas depuis la décentralisation des BDP. 86, c'est ça, Bertrand. Pour nous, c'est nouveau. C'est nouveau. Il faut défendre la légitimité, l'existence de la bibliothèque du point de vue budgétaire. Dans une période qui est une période défavorable parce que les moyens budgétaires, on ne les a pas. Conclusion inévitable, eh bien, les enseignants-chercheurs sont obligés de venir discuter avec les bibliothécaires pour savoir ce qu'on va acheter ou pas. Je vous donne un exemple qui n'est pas dans notre domaine disciplinaire et que vivent nos collègues des bibliothèques scientifiques tous les jours. Faut-il ou non acheter Elsevier ? Elsevier, dans une bibliothèque scientifique comme celle de Grenoble, il y a deux bibliothèques universitaires à Grenoble, le budget d'accès à Elsevier dans une BU scientifique, c'est 500 000 euros par an. Hein. 600 000, je crois, même, peut-être. 5 ou 600 000. Donc la question, elle est là. Et cette question, aujourd'hui, eh bien, elle se résout dans un dialogue d'une certaine manière inédit entre enseignants-chercheurs et bibliothécaires. Sur la deuxième partie de votre question, je vais laisser Florence vous répondre, c'est son domaine.
Ce dialogue, il est effectivement inédit et je crois qu'il est véritablement une chance pour nous à saisir. Hein, donc finalement, cette contrainte est une vraie opportunité. On a longtemps pâti dans les bibliothèques d'une méconnaissance mutuelle des métiers, je crois, à savoir une méconnaissance par les enseignants du métier que nous faisions et réciproquement une méconnaissance aussi de notre part à nous, des besoins, des attentes et des pratiques de notre public enseignant. Alors, tout ce que vient de dire Frédéric Saby peut être effectivement converti comme une vraie chance pour nous d'aller au-devant de ce public et de construire ce lien qui est pour la bibliothèque quelque chose d'indispensable. Nous sommes une composante de l'université. C'est ce à quoi il faudrait aujourd'hui qu'on réussisse à convaincre nos décideurs. Nous sommes une composante de l'université. Et donc, avoir ces liens de travail au quotidien avec les enseignants, c'est pour nous quelque chose d'absolument indispensable. Alors, ça passe par de multiples possibilités. Il y a la question des enquêtes. Donc faire des enquêtes auprès de ce public-là, c'est quelque chose de très important pour arriver vraiment à cerner la manière dont ce public travaille, dont il se sert de la bibliothèque, comment est-ce qu'il encourage les étudiants à avoir des pratiques bibliographiques, quels sont ses circuits d'information, etc. Ça, c'est vraiment un élément indispensable du travail et qu'on a trop longtemps négligé. Heureusement, maintenant, la vapeur commence à s'inverser autrement. Hein. Donc, ces pratiques d'enquête, on les mène maintenant de manière régulière et aussi en direction de ce public-là, et c'est une très bonne chose. Par ailleurs, les leviers sont multiples. Hein. On a parlé tout à l'heure des acquisitions dont on nous enlève finalement un peu une part de scientificité. N'empêche qu'il faut savoir rebondir au-delà de cette déception première en considérant que ce lien avec l'enseignant qu'on établit au travers des acquisitions, c'est aussi un moyen de lui parler de ce qu'on fait par ailleurs à la bibliothèque, de montrer en quoi consiste notre métier, que la collection, ce n'est pas quelque chose qui se constitue de manière comme ça, par accumulation, de manière un peu mathématique et additionnel. C'est aussi tout ce qu'on peut faire autour de l'activité scientifique et culturelle, la valorisation des fonds, l'accompagnement des enseignements, le fait de valoriser les publications des enseignants, l'aide aussi au dépôt des publications scientifiques. Là, c'est un domaine sur lequel on s'investit à Grenoble depuis très peu de temps, un an ou deux, mais qui nous permet d'aller dans les laboratoires pour former les enseignants, notamment à tout ce qui est dépôt dans les plateformes d'archives ouvertes. vous savez, ces plateformes où l'on va déposer les publications scientifiques, les thèses, les HDR, etc. Et véritablement, quand on fait cette démarche-là, se crée un partenariat qui est très fructueux et qui ensuite nourrit, irrigue tout le reste de notre activité. Votre dernière question portait, je crois, sur la place des enseignants documentalistes. Je ne connais pas très bien la question en collège, mais je la connais un peu en revanche dans le département que je dirige, puisque une de mes collaboratrices a ce statut-là. Et elle est en charge du service de la formation des étudiants à la recherche documentaire. Elle fait un travail excellent, je pense qu'il est lié en partie aussi à sa formation, parce qu'elle est effectivement très mobilisée sur les questions de pédagogie et d'enseignement. Je ne pense pas en revanche qu'elle soit considérée par les enseignants de l'université comme leur égale, comme une collègue. Elle est vraiment assimilée au monde des bibliothécaires. Ça, c'est clair. Mais ça n'empêche pas qu'on fasse malgré tout, grâce à elle et par les partenariats qu'elle monte, un excellent travail de conviction envers les enseignants. Et on a de toute façon sur cette activité un retour qui est pour le coup à 100% positif de la part des enseignants qui nous envoient leurs étudiants. Voilà, je ne sais pas si on a répondu à votre question.
Une autre question ?
Oui, bonjour, Carole Berthet, directrice de la médiathèque de Rueil-Malmaison et du réseau des bibliothèques. C'est vrai que votre discours des universités correspond au discours des bibliothèques municipales, tout particulièrement sur les questionnements de nos tutelles. Parce qu'il faut savoir, effectivement, que maintenant, ils pensent soit on est des experts et on doit même faire de l'aide aux devoirs, parce qu'il y a de plus en plus de monde dans les bibliothèques, que ce soit dans l'action culturelle, sociale, éducative, et la fréquentation est extrêmement importante, ou bien, en tant que, si vous voulez, bibliothécaire classique, certains pensent que même notre métier doit disparaître. Donc, tout à l'heure, vous parliez des chercheurs et des enseignants qui faisaient le choix des ouvrages. On peut presque se poser la question pour nous de savoir si demain, ce n'est pas à ce niveau-là qu'on doit être pour le choix tant des ressources numériques que des collections papier. Et je vois très peu de différence finalement entre l'université et les bibliothèques municipales aujourd'hui dans les problématiques. Nous, on est en plus dans des problématiques de réduction budgétaire forte. Et il va convaincre aujourd'hui, c'est très compliqué parce qu'il faut soit du personnel très basique d'un côté, peu de personnel en règle générale, ou bien des grands experts. Donc, voilà, c'était pour appuyer votre discours là-dessus. Nous, on ressent totalement ça dans notre ville.
On est d'accord.
Moi, j'avais une question. Quelle est la place de la France en matière de dépenses documentaires, donc universitaires, au niveau européen et international ? Comment se situe la France, donc, à l'échelle européenne et internationale en matière de dépenses par étudiant, donc documentaires ?
Donc à l'université, hein. Comment se situe la France dans le monde de la documentation universitaire à l'échelle européenne ou mondiale ?
Oui, en termes de dépenses par étudiant.
À une place absolument épouvantable. Hélas. Une place épouvantable. Je ne sais pas, Bertrand, tu as des chiffres en tête ? Non, alors on va les citer de mémoire, les chiffres. Il y a eu un rapport d'inspection générale qui a été publié il y a deux ou trois ans, qui s'intitule « Comparaison internationale des bibliothèques ». En réalité, il s'agit des bibliothèques universitaires. Et ce rapport a été fait conjointement par Claire Vessade et Suzanne Jouglet. Et la méthode utilisée a été une comparaison d'un échantillon de bibliothèques françaises avec un échantillon de bibliothèques européennes. Alors, pour la rigueur de la démonstration, il avait été rajouté à l'échantillon deux bibliothèques américaines. Mais le but du jeu, c'était vraiment de comparer une bibliothèque française avec une bibliothèque européenne. Parce qu'on sait très bien qu'aux États-Unis, les moyens sont d'une toute autre ampleur. Réglons la question tout de suite et on n'y revient pas. Le budget d'acquisition de la bibliothèque universitaire d'Harvard, je dis bien le budget d'acquisition de la bibliothèque universitaire d'Harvard, est supérieur au budget de fonctionnement de notre université de tutelle. D'accord ? Donc on n'en parle plus. Parlons de la comparaison entre les bibliothèques françaises et les bibliothèques européennes. Si vous vous appuyez sur ce rapport d'inspection générale, qui est une source très, très solide pour nous actuellement, il va d'ailleurs être remis à jour, si je ne me trompe pas. Toutes les bibliothèques de l'échantillon français sont systématiquement en queue de classement, quel que soit le critère utilisé. Quel que soit le critère utilisé. C'est-à-dire qu'une bibliothèque, en ramenant la dépense documentaire par étudiant, une bibliothèque universitaire française se situe entre 20 et 50 ou 60 euros par étudiant. D'accord ? 20 euros par étudiant, c'était les plus mauvais de l'échantillon, c'est-à-dire nous. Nous faisions partie de l'échantillon. Nous faisions partie de l'échantillon. La plus mauvaise bibliothèque universitaire européenne de l'échantillon, c'était une bibliothèque espagnole et la dépense par étudiant était supérieure à 100 euros. Voilà. La meilleure bibliothèque de l'échantillon, ça devait être une bibliothèque britannique et qui se situait à plusieurs centaines d'euros par étudiant, c'est-à-dire 20 fois la meilleure française, quoi. Donc nous sommes très loin. Nous sommes très loin. Mais après, on pourrait débattre à l'infini là-dessus. Le contexte universitaire n'est pas le même. Ce n'est pas qu'une question d'attribution de moyens. Et ce n'est pas non plus une question de différence de richesse. La France n'est pas un pays pauvre parmi les États de l'Union européenne. Le contexte universitaire n'est pas le même. L'histoire universitaire n'est pas la même. Et l'enseignement universitaire n'est pas le même. Vous allez dans une université allemande, le cours magistral du prof, ça n'existe pas vraiment. Ce qui existe en revanche, c'est qu'on remet à l'étudiant une bibliographie et on lui dit « tu reviens la semaine prochaine en ayant lu la bibliographie ». Il y a d'autres indicateurs qui sont intéressants. On a parlé tout à l'heure de la baisse des empreintes documents qu'on constate dans toutes les bibliothèques en France, aussi bien universitaires que bibliothèques de lecture publique. Je parle bien des empreintes de documents imprimés sur du papier. Je ne parle pas du tout de l'accès aux ressources numériques, etc. Ça, c'est encore un autre problème. Je parle du critère le plus classique qui soit, le plus ancien que nous ayons à notre disposition, c'est-à-dire l'empreinte des documents papier. Chez nous, ça baisse en permanence. J'ai été amené, il y a quelques temps, à être en relation avec la... tu as l'exemple même peut-être plus récent en tête. Oui. On va vous citer l'exemple tout à fait stupéfiant de la bibliothèque de Karlsruhe, de l'université de Karlsruhe. Université, je finis l'introduction et après on va vous donner les chiffres. L'université de Karlsruhe n'est pas une bibliothèque... L'université de Karlsruhe n'est pas une université de lettres et sciences humaines, c'est une université de sciences exactes. C'est une université où on enseigne la chimie, la physique, la mécanique, ce genre de disciplines. Strictement rien qui concerne la littérature, l'histoire, la philosophie, etc. Et dans cette bibliothèque...
C'est le suspense. Alors, je vais vous donner vraiment une comparaison qui sera très parlante par rapport à notre situation à nous, BU droit à lettres, à Grenoble, avec des littéraires, des humanistes dans notre public étudiant et ce public scientifique allemand. Nombre d'étudiants inscrits, On est pratiquement à égalité. Je crois que c'est de l'ordre de 25 000 étudiants inscrits à la bibliothèque de Karlsruhe et dans la nôtre également. Nombre de prêts effectués sur une année à la BU de Grenoble. 140 000 par an, en gros.
Des littéraires, des philosophes, des historiens,
des spécialistes. Que des gens qui lisent des livres.
Que des gens qui lisent. 140 000 prêts par an.
Et nombre de prêts donc à la BU scientifique de Karlsruhe. Est-ce que vous avez une idée de... 1 million de prêts. 1 million de prêts par an.
Et des ça, bouquins c'est imprimés. Des bouquins imprimés.
De bouquins hein imprimés.
Et on ne parle pas de collection numérique, là.
Les statistiques donc nationales, là aussi, c'est intéressant de comparer. En moyenne, un étudiant inscrit dans une bibliothèque universitaire en France, il emprunte en gros 12 ouvrages dans l'année. En Allemagne, c'est entre 30, 35 et 40 dans l'année. Donc vous voyez que le contexte n'est pas le même. Et je crois que fondamentalement, le point de différence aussi qui permet d'expliquer ces variations importantes, c'est vraiment le type d'enseignement que nous pratiquons ici en France et la manière dont on incite les étudiants à lire.
On s'aperçoit dans les bibliothèques municipales actuellement que justement pour le livre papier, tout ce qui est scientifique et pointu, qui coûte cher d'ailleurs, est bien emprunté. Et c'est assez étonnant, mais ce sont d'ailleurs des livres qui coûtent cher et qui sont pointus. Et c'est un secteur vraiment, nous, on est qui est exponentiel, alors que la littérature, pas forcément.
Oui, mais alors là, il y a quand même vraiment une vraie différence entre bibliothèque universitaire et bibliothèque de lecture publique. Chez nos voisins de la bibliothèque scientifique à Grenoble, c'est 60 000 prêts par an, hein, pour le même public étudiant que nous. 60 000 prêts, 25 000 étudiants à peu près, Karlsruhe, les mêmes scientifiques, 1 million de prêts.
Eh bien, je pense que c'est un bon moyen pour conclure la matinée. Merci.
Merci à vous.
Je vais vous donner quelques précisions pratiques. Donc, tout d'abord, là, nous allons sortir par la porte qui se trouve à gauche. On va monter l'escalier et il y a une porte qui va donner sur la piazza. À 14h, on revient par l'entrée principale. Et ce soir, on sortira aussi par l'entrée principale. Les personnes qui ont des valises peuvent les laisser parce que la salle sera fermée à clé. Voilà, bon appétit. Et on se retrouve à 14h précise, s'il vous plaît. Merci.